Voilà plus d'une semaine que l'Assemblée nationale a entamé l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites, mais le nombre d'amendements est tel, plus de 41 000, qu'hier, les députés n'avaient encore adopté que 5 articles d'un texte qui en comprend 65. Face à cette situation qui semble enlisée, et pour couper court à des discussions interminables, la majorité et l'exécutif font miroiter le recours au 49-3, procédure constitutionnelle qui permet l'adoption d'un projet de loi sans vote, mais qui soulève beaucoup d'opposition. Le Premier ministre a écarté l'option du 49-3 cette semaine, mais n'a pas exclu d'y avoir recours dans les jours qui viennent. Dominique Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous venez de coordonner un ouvrage dont nous parlerons tout à l'heure à 8h30 qui s'intitule « Réclamer en démocratie ». Il ne s'agit pas encore de réclamation, mais peut-être même de l'expression même de l'exercice du droit démocratique. D'un côté, on a l'opposition qui fait obstruction, donc qui est dans son droit démocratique. Et puis de l'autre côté, une majorité qui cherche à y couper court par le 49-3, peut-être même dans son droit constitutionnel. On est dans l'exercice de plein droit de la démocratie, n'est-on pas ?
Non, avec l'obstruction, non. L'obstruction n'est pas un droit démocratique. C'est comme en foot, lorsque vous jouez au foot, si un joueur heurte un autre joueur qui n'a pas la balle, on dit qu'il a obstruction et qu'il y a coup franc. L'obstruction, c'est de l'anti-jeu, justement, c'est de l'anti-jeu parlementaire.
Et le coup franc, c'est le 49-3.
Et le coup franc, c'est le 49-3. Si vous voulez, on assiste actuellement à ce que j'ai appelé la maladie infantile du régime parlementaire. C'est-à-dire, au lieu de débattre, on stoppe la discussion, on obstrue, on dépose des amendements pour changer un adverbe par un autre, annuel par chaque année, on déplace une virgule, on remplace « des » par « de tous les ». Bref, ce ne sont pas des amendements qui conduisent à une discussion sur « est-ce que le régime par point est mieux que le régime par... »
Mais pourquoi ? C'est le temps du débat. Les amendements créent du débat, non ?
Alors, l'amendement est un droit fondamental de chaque parlementaire. Mais un amendement est fait pour améliorer, discuter, modifier. Or là, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous croyez que vous avancez le débat lorsque vous changez annuel par chaque année ? Non. En revanche, s'il y avait une vraie discussion sur est-ce que le régime par point est mieux ou moins bien que le régime par annuité, là, vous avez un débat sur le fond. Là, on a... Et c'est même pas vous les journalistes ou nous les professeurs qui disons il y a obstruction. Ce sont les oppositions elles-mêmes qui disent, qui revendiquent, qui assument de faire de l'obstruction.
Donc pour vous, l'obstruction tue le débat ?
Pour moi, l'obstruction tue le débat, l'article 49 tue l'obstruction et relance le débat.
Et en quoi ça relance le débat ?
Alors, ça relance le débat parce qu'il va y avoir une motion de censure. La motion de censure...
Qui doit être déposée dans les 48 heures.
Qui doit être déposée dans les 24 heures.
24 heures.
Ensuite, il y a 48 heures. Et c'est au bout de ces 48 heures qu'on débat de la motion de censure. Donc il va y avoir un débat sur la motion de censure, où là les députés vont dire c'est pas
bah
bien.
Là on débat plus de la réforme du droit des retraites non
si,
plus.
Parce que la motion de censure va être
en déposée. Débattant de la motion de censure.
La motion de censure va être débattue, va être déposée sur le projet de loi, où les députés vont dire ce projet de loi n'est pas juste, porte atteinte à la politique sociale. Donc il va y avoir un débat sur la politique sociale et notamment des retraites du gouvernement. Et n'oubliez pas que de toute façon, après, le texte va passer au Sénat. Et là, au Sénat, il n'y a pas de possibilité d'utiliser l'article 49.3, puisque le Sénat ne peut pas déposer une motion de censure. Donc, le débat, il va continuer. Et je dirais que le débat, il va continuer. On parlait tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Il va continuer aussi au Conseil constitutionnel, parce que la loi aujourd'hui votée ne suffit pas, le vote ne suffit pas à faire de la loi. Un texte exprimant la volonté générale. Il faut encore que ce texte respecte la Constitution. Or, dans le projet de loi actuel, il y a beaucoup de dispositions qui heurtent des principes constitutionnels. Le régime des avocats, par exemple. Hein ? Le fait de mettre les réserves actuellement du régime autonome dans le régime général, ça porte atteinte à la liberté pour cette profession de s'organiser. Ça porte atteinte au droit de propriété. Donc, il y a beaucoup... La discussion n'est pas terminé. Au contraire.
Il existe d'autres lieux de débat possibles que l'Assemblée nationale, mais quand même, Dominique Rousseau, ça veut dire qu'on squeeze l'Assemblée nationale, là où devrait avoir lieu un débat démocratique. Est-ce que vous avez l'air d'incriminer l'opposition qui fait obstruction avec ses 41 000 amendements, 41 000 peut-être un peu moins, enfin bon, un certain nombre, disons, d'amendements. Est-ce que le gouvernement n'a pas sa part de responsabilité en cherchant à faire passer une loi en procédure accélérer, justement en réduisant le temps du débat ?
Bien entendu qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Le gouvernement a choisi la procédure accélérée qui réduit le nombre de navettes. Enfin, il y a même pas de navettes. Hein. Une fois à l'Assemblée nationale, une fois au Sénat, et on revient et on vote. C'est la procédure accélérée. Parce que nous sommes aujourd'hui, je crois, dans un moment où les citoyens, les sociétés pensent que lorsqu'on annonce une loi, la loi est immédiatement applicable. Donc il y a un décalage entre le temps médiatique, le temps de l'opinion et le temps parlementaire. Et les citoyens ne comprennent pas que lorsqu'on annonce une réforme des retraites, je sais pas moi, en janvier 2018, elle ne sera votée qu'en juin 2020. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Alors que il y a eu vraiment, sur cette question de la réforme des retraites, on peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de débat dans la société. Il y a eu un débat avec la commission de Levoix, il y a eu un débat dans les journaux, il y a eu un débat... Il y a eu un débat constant sur la réforme des retraites. Malheureusement, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Et encore une fois, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, à la fois parce qu'il y a eu la procédure accélérée, mais aussi parce que les députés, encore une fois, utilisent le droit d'amendement non pas pour débattre, mais pour empêcher le débat. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ils disent, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est retarder le vote. Donc, retarder le vote, c'est de l'obstruction.
Donc, l'obstruction peut être une atteinte à la procédure parlementaire. En tous les cas, c'est aussi ce que vous nous dites ce matin, Dominique Rousseau. De l'autre côté, force est de constater que la procédure du 49-3 ne rencontre pas l'assentiment de tout le monde. LBD parlementaire, bombe atomique, armes nucléaires, armes d'encerclement parlementaire. Martine Aubry, maire de Lille, a parlé d'un scandale démocratique. C'est vrai qu'on a le sentiment, quand on est citoyen lambda, en tous les cas, c'est ce qu'on entend toujours, que quand on sort l'arme du 49-3, c'est un passage en force. C'est vraiment nécessairement lié. Pourquoi personne n'aime le 49-3, Dominique Rousseau ?
Parce qu'on a oublié son histoire. On a oublié son histoire. Le 49-3 en 1958, il fait consensus. Tout le monde est d'accord. Et c'est pas les gaullistes.
Rappelez-nous dans quel contexte.
Alors,
le
contexte, c'est 1958, la nouvelle constitution, et ce sont les présidents du Conseil de la 4e République. Guy Mollet, Plimelin, Pleven. Ce sont les présidents du Conseil de la 4e République qui disent aux constituants, donnez-nous les moyens de gouverner. La 4e République, 12 ans, 18 gouvernements. Ça n'est même pas 6 mois. Et les présidents, les anciens présidents du Conseil disent aux constituants, il faut que dans la nouvelle constitution, donner au gouvernement les moyens d'appliquer sa politique. Ce sont donc eux qu'ont revendiqué ce 49-3. Les gaullistes, Michel Debré a dit, ok, on y va. Mais au départ, il y a eu un consensus, il s'agissait de donner au gouvernement les moyens de gouverner, c'est-à-dire de mettre les députés devant leurs responsabilités. La question du 49-3, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes contre le texte de loi au point de faire tomber le gouvernement ? Voilà. C'est le problème des frondeurs sous Hollande. Les frondeurs étaient contre la loi El Khomri sur la réforme du travail. Valls pose le 49-3 et il dit aux socialistes, frondeurs, est-ce que vous êtes contre la loi El Khomri au point de faire tomber le gouvernement ? Et là, les frondeurs disent non, on fait pas tomber le gouvernement, parce que autrement, dissolution, on va perdre notre siège, etc. Donc, le 49-3 pousse à la responsabilité des députés en leur disant, voilà, il y a un moment important, si vous êtes contre le texte, vous avez un moyen, donc ça supprime pas ça enlève pas du pouvoir au Parlement, ça donne aux parlementaires le pouvoir de renverser le gouvernement si vraiment leur bataille n'est pas politicienne, mais politique.
Alors comment est-on passé du consensus de 1958 à la confrontation ou à l'opposition systématique, alors même d'ailleurs que cette procédure a été utilisée par presque tous les gouvernements au cours de la 5e République, hein, 88 fois depuis 1958.
Oui. Pourquoi parce que, évidemment, le jeu de l'article 49-3, c'est de suspendre le débat. Et donc, les députés n'aiment pas qu'on suspende le débat. Encore une fois, le problème, c'est est-ce qu'on suspend avec le 49-3 dans l'hypothèse actuelle, est-ce qu'on suspend le débat ou est-ce qu'on suspend l'obstruction ?
Oui, est-ce qu'on le suspend ou est-ce qu'on le relance,
Voilà. Donc, ma thèse, en m'appuyant sur les mots mêmes des députés qui font les amendements, les députés disent on fait de l'obstruction. Donc, là, le 49-3 suspend l'obstruction. relance le débat, soit au moment de la motion de censure, au Sénat et au Conseil constitutionnel. C'est pas parce que la loi sera votée, encore une fois, qu'elle sera validée par le Conseil constitutionnel dans la mesure où, je le répète, cette loi comporte un certain nombre de dispositions qui heurtent les principes constitutionnels.
Est-ce qu'il y aurait, malgré tout, Dominique Rousseau, une alternative à l'obstruction aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y avait une alternative à l'obstruction ?
Alors, l'alternative à l'obstruction aurait été, par exemple, de mettre en place la nouvelle procédure de législative programmée. C'est-à-dire qui, à la différence de la procédure accélérée, fixe à l'avance le temps pour chaque groupe parlementaire de discuter de la proposition des différents articles. Il y avait une alternative qui était celle-là.
Que le gouvernement n'a pas choisi. Donc, d'une certaine façon, l'opposition cherche à gagner du temps aujourd'hui. La majorité ne veut pas en perdre. Et je reviens à ma première question. Chacun joue son rôle, d'une certaine façon.
Chacun joue son rôle. C'est-à-dire que l'opposition veut retarder le vote de la loi pour que ça connecte avec les élections municipales, obliger le gouvernement à utiliser le 49.3 et vous voyez, et à ce moment-là dire le gouvernement est autoritaire, il utilise l'article 49.3.
Oui, Dominique Rousseau, chacun est dans son rôle, sauf à considérer justement, puisqu'ils se renvoient la balle l'un et l'autre, dans un déni de démocratie, chacun. Donc chacun est dans son rôle, sauf à considérer qu'on n'est pas vraiment dans un bon fonctionnement parlementaire.
Là. Mais ça c'est clair, on n'est pas dans un bon fonctionnement parlementaire. Encore une fois, l'obstruction, c'est la maladie infantile, vous l'avez dit, c'est la maladie infantile.
C'est vous qui l'avez dit.
Ouais, c'est la maladie.
formule à vous.
C'est la maladie infantile du régime. Parlementaire. Et comment dire, les parlementaires eux-mêmes, en faisant de l'obstruction, conduisent à penser ou à imaginer d'autres lieux pour discuter. Regardez la Convention citoyenne pour le climat. Il n'y a pas d'obstruction. Ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Mais là, au moins, il y a un débat interne, public, et il n'y a pas d'obstruction.
Mais donc les règles du débat ont été mal posées.
Alors, les règles...
On s'en prend au 49.3 aujourd'hui, on devrait remonter le fil de la façon dont le débat a été posé aujourd'hui au sein même de l'Assemblée nationale.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, la question est celle de savoir comment l'Assemblée nationale peut s'intégrer dans le processus de fabrication d'une loi, alors qu'il y a les conventions de citoyens, alors qu'il y a les mobilisations citoyennes, alors qu'il y a les comités d'experts, alors qu'il y a le Conseil d'État. Quel est le moment réservé aux parlementaires? Parce que si vous discutez un peu avec les parlementaires, souvent les parlementaires se disent, mais ce qu'on nous demande, c'est de donner un label sur une loi qui a été préparée avant. Mais on est au XXIe siècle. L'Assemblée nationale, toutes les institutions sur lesquelles, et c'est la question de la démocratie, les institutions d'aujourd'hui sont des institutions qui ont été inventées au XIXe siècle. Est-ce qu'elles sont toujours valables ? Est-ce que l'Assemblée nationale est toujours cette Assemblée qui est connectée avec la sociologie, le ressenti, le vécu des citoyens ? Vous me dites, le débat se passe pas à l'Assemblée nationale. Ok, mais peut-être qu'il se passe sur les plateaux de télé, peut-être qu'il se passe à la radio, peut-être qu'il se passe dans les réseaux sociaux, peut-être qu'il se passe dans les conventions de citoyens, peut-être. Et quand ça arrive à l'Assemblée nationale ? Eh bien, le débat...
Vous avez cassé votre micro, un geste violent. On vous retrouve dans 2 minutes, le temps qu'on rétablisse votre micro, mais on vous entend encore, ne vous inquiétez pas, Dominique Rousseau. Justement, comment améliorer la démocratie, comment la radicaliser, comment faire passer à une démocratie continue? Ce sont précisément tout un tas de questions que vous vous posez, vous, et que vous posez dans les livres que vous publiez successivement. À tout de suite, Matteo Caranta pour les Décultures. Vous aviez envie de dire quelque chose, Dominique Rousseau, à propos de ce que vous venez d'entendre.
Oui, c'est stupéfiant la manière dont on peut instrumentaliser cette histoire. Ça montre la faiblesse, justement, de ceux qui doutent de la réalité du réchauffement climatique.
Est-ce que ces manifestations de jeunes pour le climat peuvent être considérées comme des réclamations? Vous venez de diriger un ouvrage collectif qui est une somme d'articles qui s'intitule précisément « Réclamer en démocratie ». Réclamer, ça voudrait dire quoi? Manifester, pétitionner?
Réclamer, justement, dans ce travail qu'on a mené pendant 2 ans avec toute mon équipe de jeunes juristes constitutionnalistes, historiens, politistes et philosophes, l'idée de réclamer, comme son nom l'indique, c'est la voix. On réclame, on parle. Et on est en train de passer d'une démocratie où, jusqu'à présent, on demandait aux citoyens de donner leur voix, hein, quand on, à l'élection...
À un député,
voilà, à qui t'as donné
à une liste de maires...
Voilà,
de,
hein, on dit à qui t'as donné ta voix.
Dans les prochaines semaines.
Voilà, à qui t'as donné ta voix. Bon, on passe d'une démocratie qui répond à qui t'as donné ta voix, à une démocratie à je donne de la voix. Je réclame. Je donne de la voix. Et pour donner de la voix, il faut avoir des yeux pour comparer ce qui est écrit dans le texte de la Constitution, parce qu'on est parti de la Déclaration de 89.
Le préambule.
Préambule de la Déclaration de 89. Ah oui, on est juriste, c'est notre terrain, la Déclaration de 89. Et dans la Déclaration de 89, les types, en 89, avant de donner la liste des droits, ils disent, voilà pourquoi on énonce la liberté, etc. Et ils disent pour deux raisons. La première, c'est pour permettre aux citoyens de comparer, c'est pas moi qui dis le verbe, c'est eux, hein, pour comparer ce qui est écrit avec ce que font les gouvernants. Et deuxièmement, disent-ils, afin de permettre aux citoyens, c'est toujours pas moi qui parle, c'est eux, de réclamer le respect des principes qu'on vient d'énoncer. Autrement dit, vous avez la comparaison et la réclamation. Ce qui veut dire que vous avez l'œil pour comparer, je regarde, j'ai les représentants à l'œil. Si vous prenez le langage ordinaire, hein, on n'est pas avoir quelqu'un à l'œil, c'est le contrôler. Mais les citoyens, désormais, ils ont à l'œil leurs représentants, parce qu'ils comparent. Et si vous regardez ce qui se passe, en Hongrie, en Pologne, que font ces gouvernements? Ils tuent l'œil et ils tuent la voix. C'est-à-dire qu'on a des démocraties qui sont aveugles et des démocraties qui sont muettes parce qu'on porte atteinte à l'œil, c'est-à-dire à la liberté de la presse. On empêche les citoyens de voir. On porte atteinte à la liberté universitaire en Hongrie. On empêche les citoyens de réfléchir sur ce qu'ils voient. On porte atteinte à la voix, c'est-à-dire on porte atteinte aussi à la possibilité de s'adresser au juge pour faire constater l'écart entre ce qui est écrit et ce qui est fait.
Mais donc, Dominique Rousseau, on a oublié ce principe qui date de 1789, parce qu'on a tendance à entendre aujourd'hui, dans le terme même de réclamer, quelque chose d'un peu plus péjoratif. Hein. Réclamer, c'est revendiquer, protester, mais c'est demander avec insistance.
Oui.
Or, vous avez l'air de dire que ça ne met pas du tout en péril la démocratie, de réclamer en démocratie. C'en est même la source vive.
Absolument. Tous les droits... Les droits sont pas tombés du ciel. Hein. Les droits, ils viennent de la terre, c'est-à-dire des luttes sociales. Donnez-moi un seul droit qui n'ait pas pour origine une réclamation. Camus disait hein, « Je me révolte, donc nous sommes ». C'est pas « Je me révolte, donc je suis », c'est « Je me révolte, donc nous sommes ». Et donc tous les droits, que ce soit le droit de vote, mais le droit de vote... Et c'est le résultat de réclamations. Il y a la révolution de 1830, la révolution de 1848, c'était pour le droit de vote. Et je ne vais pas vous parler du droit des femmes. Les femmes ont réclamé le droit de vote, ont réclamé le droit à disposer librement de leur corps. Le droit au logement, c'est parce qu'il y a eu des réclamations. Le droit à l'emploi, c'est parce qu'il y a des réclamations. Autrement dit, l'énergie sociale de la société, c'est la réclamation. Sans réclamation... pas de démocratie. Et la crise de nos démocraties, c'est que aujourd'hui, on pense que les démocraties se réduisent à un seul instrument, le suffrage universel. Pour réclamer, vous avez le suffrage universel. Mais non. Le vote est un instrument de délégation qui empêche le citoyen de parler, puisqu'il donne le pouvoir de parler à celui ou à ceux qui viennent d'être élus. Or, la démocratie, c'est précisément cette énergie de la société qui, en réclamant, produit des droits. Et c'est pour ça que j'appelle ça la démocratie continue, dans la mesure où elle ne s'arrête pas, c'est tout aussi bête que ça, elle ne s'arrête pas à chaque moment électoral, elle continue entre deux moments électoraux, par les pétitions, par les manifestations, par les réclamations qui peuvent prendre de multiples formes, y compris des formes, je dirais...
Une occupation de ronds-points, un lancer de robes d'avocat, une distribution de fleurs, des coupures de courant, des blocages de corrections de copies de bac, Tout ça, ça fait partie de la réclamation.
Des réclamations. Et vous avez les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte? C'est quelqu'un qui n'est pas élu. C'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise, dans un journal, dans une université, dans un lycée, et qui s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il s'en va chez lui, il va se promener, je dis rien. Ou bien au contraire, il le met sur la place publique. Et à ce moment-là, ça provoque un débat, fameux débat dont on parlait tout à l'heure. Ça provoque un débat, et tous les grands changements aujourd'hui viennent justement de ces citoyens qui lancent une alerte civique, pas civile, mais civique, c'est-à-dire en s'appuyant sur les droits pour faire modifier le fonctionnement de la démocratie.
Est-ce qu'il y a des limites, Dominique Rousseau ?
Non, il n'y a pas de limite.
Des risques ?
Non, mais il n'y a pas de limite. Vous savez, la liberté des autres n'est pas une limite à ma liberté. La liberté des autres est une condition de ma liberté. « Je est un autre », disait Rimbaud. C'est-à-dire, il ne faut pas concevoir ma liberté ou la liberté des autres comme étant une limite, mais comme étant une condition de ma liberté. Donc, vous ne pouvez pas mettre de limite aux réclamations. Si vous mettez une limite à la réclamation, vous mettez une limite à la démocratie. Or, précisément, la démocratie est un processus, je vais me répéter, mais un processus continue.
Et vous l'avez déjà écrit, puisque vous avez, avant de réclamer en démocratie, comme vous l'avez dirigé avec votre équipe, Dominique Rousseau, vous avez écrit vous-même « Radicaliser la démocratie ». Et encore avant, c'était « La démocratie continue ». Donc ça fait déjà plusieurs années que vous réfléchissez aux conditions d'exercice de la démocratie en tant que professeur de droit constitutionnel. J'ai sous les yeux le 1 de cette semaine qui s'intitule « Comment augmenter ». La démocratie, chacun améliorer, augmenter, la rendre continue, etc. Oui. Dans ce 1, par exemple, le politiste Rémi Lefebvre écrit « Le retour de la conflictualité sociale est la marque d'un profond malaise démocratique et d'un déséquilibre des institutions de la Ve République. C'est dans la rue, ajoute-t-il et conclut-il, et pas sur la scène électorale que la lutte apparaît contre le pouvoir en place. » On est à quelques jours... quelques semaines, allez, d'échéances électorales, on ne voit rien paraître. Alors peut-être que d'autres sujets, comme le coronavirus en ce moment, occupent la place. Mais avant ça, il y avait d'autres choses. On a l'impression d'une campagne complètement absente, d'un désintérêt total. Peut-être se trompe-t-on, en tous les cas, ici. Le jour du dépôt officiel des candidatures aux élections municipales, c'était avant-hier. Comment regardez-vous ce que dit Rémi Lefebvre, c'est dans la rue et pas sur la scène électorale que la lutte apparaît contre le pouvoir en place aujourd'hui, comparativement à ce qui ne se passe pas, en tous les cas, du point de vue de la campagne des municipales?
Oui, alors pour les municipales, il faut peut-être nuancer. Lorsqu'on lit la presse locale, lorsqu'on lit les journaux locaux, Midi Libre, Ouest France, la Dépêche du Midi, etc., là, on voit quand même qu'il y a dans les journaux locaux un débat sur les municipales à Montpellier, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille.
Donc ça se passe localement.
Donc ça passe localement. Donc faut peut-être
plus que nationalement.
Voilà, faut peut-être nuancer. Il y a un autre élément explicatif, c'est que dans les campagnes municipales précédentes, on était encore, disons, dans le schéma droite-gauche. Là, le paysage politique est tellement fragmenté que les citoyens, mais aussi les commentateurs, n'arrivent plus, comment dire, à donner une vision droite-gauche de la bataille municipale, ce qui peut expliquer, disons, le relatif désintérêt à l'égard des municipales. Sur le reste, la rue ou les urnes? Les deux, camarades.
Vous avez envie de dire la rue et les urnes.
Voilà, c'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la démocratie ne peut plus fonctionner que sur le suffrage universel, qui est un instrument non pas d'expression du pouvoir, mais d'aliénation du pouvoir des citoyens. N'oubliez pas la phrase de Sieyès, le peuple ne peut vouloir et parler que par ses représentants. C'est précisément ce principe-là qui est aujourd'hui remis en cause.
Ça, manifestement, Dominique Rousseau, un certain nombre de nos concitoyens ont l'air de l'avoir compris, peut-être plus que nos gouvernants actuels.
Certainement plus que nos gouvernants actuels, qui commence à sentir la chose. Hein. Quand même, il y a des tas d'associations, Parlement ouvert, Parlement et citoyens, l'initiative dont je parlais tout à l'heure sur les conventions sur le climat. Il y a bien une prise de conscience que les institutions traditionnelles, Sénat, Assemblée nationale, ne sont plus connectées avec la demande, la réalité, les réclamations des citoyens. Les citoyens réclament justement de participer à la fabrication de la loi, et pas simplement en votant, mais de manière continue, donc par les conventions. Par exemple, une de mes propositions est d'inscrire dans la Constitution l'obligation pour les députés de réunir dans leur circonscription les électeurs pour leur faire débattre des projets et propositions de loi avant qu'elle soit débattue à l'Assemblée nationale.
Porter atteinte à l'œil des citoyens, c'est rendre la démocratie aveugle. Porter atteinte à leur voix, c'est rendre la démocratie muette. Réclamer, c'est garder l'œil vif et la voix forte.